Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, vous proposent 9 documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Le CHU depuis 1992, naissance d'un réseau. Un documentaire proposé par Radio Campus Montpellier.
Difficile de parler de la médecine à Montpellier sans évoquer le centre hospitalier universitaire, communément appelé CHU. En plus d'être une des premières sources d'emploi en Occitanie, avec 10 842 personnels hospitaliers, il exerce des missions fondamentales telles que le soin, l'enseignement et la recherche. Nous avons rencontré Olivier Jonquet, professeur émérite de l'Université de Montpellier et ancien chef du service de réanimation du CHU, qui nous a beaucoup appris sur son fonctionnement. Le CHU depuis 1992, la naissance d'un réseau, un magazine proposé et réalisé par Tom Martinez et Océane Roy.
Je suis né à Montpellier, d'une famille qui est à Montpellier depuis plusieurs générations. Je vais vers mes 70 ans. Et donc, j'ai fait mes études à Montpellier. J'ai fait mes études primaires, secondaires à Montpellier, mes études de médecine à Montpellier. J'ai été nommé interne des hôpitaux en 1975, chef de clinique en 1980, après mon service militaire. Et en 1989, j'ai été nommé professeur de réanimation médicale dans le service de maladies infectieuses du CHU, parce que la réanimation médicale, à la différence de l'anesthésie-réanimation, qui est née de la chirurgie, la réanimation médicale est née de la médecine dans les années 50, au moment de l'épidémie de poliomyélite. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais à cette époque-là, a eu lieu une épidémie de poliomyélite, qui est une maladie infectieuse, une maladie virale infectieuse, qui entraîne des paralysies, et notamment des paralysies respiratoires. Et donc, c'est à partir de là qu'ont été pris en charge dans le pavillon Pasteur, qui était le service des maladies contagieuses, des maladies infectieuses de l'époque, qu'a été créé ce service de réanimation. Alors bien sûr, la poliomyélite a disparu, mais on a pris en charge d'autres maladies respiratoires, atteintes respiratoires, puis aussi atteintes infectieuses, parce que Il y avait les méningites graves, les accidents vasculaires cérébraux, les chocs infectieux, les infections graves. Et donc, à partir de cela, s'est développée une activité de réanimation à laquelle j'ai donné mon concours. Et puis j'ai été nommé professeur de réanimation, le premier de la discipline à Montpellier.
Alors les CHU, centres hospitaliers universitaires, sont nés officiellement il y a 53 ans avec la loi Debré, qui a instauré leur triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. Mais leur histoire commence bien avant avec celle de l'hôpital, voici près de 2000 ans. Qu'a apporté aux hôpitaux la loi Debré de 1958 ? En quoi elle a vraiment changé leur fonctionnement ?
Alors, on ne l'imagine pas actuellement, ça a été une révolution. Il y a pratiquement le pouvoir central à créer des hôpitaux sous Louis XIV, c'est les hôpitaux généraux, tels que l'ancien hôpital général, place Albert Ier. C'est des hôpitaux qui rassemblaient les maladies dites incurables. Bon. Et au passage, Michel Foucault qualifiait cela aussi d'hôpitaux d'enfermement. On y rassemblait toutes les personnes qui traînaient, les clochards, etc. Ce que certains appellent la racaille. Bon. Et enfin, on s'est dit qu'on pouvait y faire de la médecine, et donc on a fait de la médecine. Et puis il a fallu, après la Révolution, ces hôpitaux se sont poursuivis, bien sûr, mais c'était une organisation très, 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 très particulière. D'abord, c'était réservé aux indigents, c'est-à-dire tout le monde ne pouvait pas se faire soigner à l'hôpital. D'un hôpital d'enfermement, c'était venu progressivement un hôpital de soins, mais ne pouvaient y être admis que les indigents. Et c'est à partir de cela que s'est créée la médecine moderne. La médecine moderne, la médecine dite objective, avec la méthode anatomoclinique, c'est-à-dire on examinait les gens, et puis quand ils mouraient, on faisait des autopsies, et on comparait ce qu'on avait trouvé cliniquement, enfin extérieur, du temps du vivant du patient, avec ce qu'on observait dans les viscères. La méthode anatomoclinique, l'ANEC, qui a permis de décrire un nombre important de maladies. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, Pasteur, la médecine expérimentale, tout cela, on a fait quelques progrès. Mais le grand progrès de la médecine, ça a été après la guerre de 40 et la création de la sécurité sociale. Les hôpitaux, avant la guerre de 40, on ne pouvait y être admis que si on était indigent. Après, avec la sécurité sociale, n'importe qui pouvait y avoir accès. Mais il y avait un fonctionnement un petit peu particulier, c'est-à-dire que les professeurs, qui étaient professeurs, qui étaient donc universitaires, ils avaient une activité qui était, très très peu, il y avait une présence très peu importante, peut-être une matinée ou une demi-matinée par jour. Ils étaient aidés par des chefs de clinique qui enseignaient aux étudiants la manière d'être, de faire. Mais disons, c'était très 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 segmenté. Et le soir, l'après-midi, les professeurs, ils avaient leur cabinet en ville, voire même leur clinique en ville. Vous avez la clinique des Violettes, par exemple. C'était la clinique du professeur Forgue, un grand nom de la chirurgie montpelliéraine, qui avait créé sa clinique avenue de l'Odève. Voilà. Et donc, cette loi de Bray, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, écoutez, si vous voulez être universitaire, professeur de médecine, ou avoir un poste universitaire dans la médecine, il faut que vous soyez rattaché obligatoirement à un établissement hospitalier. C'est-à-dire que vous êtes professeur, vous êtes chirurgien, eh bien très bien, vous êtes chirurgien, eh bien vous êtes affecté à un service hospitalier et vous êtes en même temps, vous enseignez, mais vous ne pouvez pas aller avoir une activité privée à l'extérieur de l'hôpital. Ce qui fait que les professeurs et les assistants, tout ça, avaient donc un traitement universitaire et une indemnité hospitalière. Mais ça s'est fait, mais à frottement dur, contre l'institution. Les professeurs avaient peur de perdre leur clientèle. Les étudiants ou les chefs de clinique se disaient, bon, mais très bien, mais moi, si on rentre là-dedans... Je ne pourrais peut-être pas être professeur, etc. Il a fallu un pouvoir fort, comme le début de la présidence du général de Gaulle, pour pouvoir mettre en place cette réforme qui a mis du temps à s'installer définitivement. Mais moi, j'ai connu des professeurs, des chirurgiens notamment, qui avaient leur activité à l'hôpital. Ils opéraient, très grandes réputations. Comme par exemple le professeur Marshall, qui a fait la première greffe de foie en France, qui avait aussi l'activité en clinique. Ensuite, ça a été fait, cette réforme de Bray, parce qu'il y avait un déficit total en matière de recherche. La médecine, elle est devenue efficace et scientifique après la Deuxième Guerre mondiale. Efficace avec les antibiotiques qui sont arrivés, et les statistiques et toute la gestion statistique. Avant, vous disiez, moi j'ai soigné 5 malades comme ça, ça marche, très bien, je vais continuer à soigner les malades comme ça. Mais non, c'est plus comme ça que ça se passe. Il faut la loi des grands nombres. On l'a vu avec cette histoire de la Covid, on le voit maintenant avec la vaccination contre la Covid. Il faut, pour avoir, disons, être sûr de ce que l'on fait, ou être au maximum sûr de ce que l'on fait, il faut une loi des grands nombres, et donc il faut une coopération, entre plusieurs équipes médicales, il faut toute une organisation qui n'existait pas auparavant. Et c'est ce que cette loi a permis progressivement, au cours des années, d'installer.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu concrètement de comment s'articulent les échanges entre les étudiants universitaires et le monde hospitalier?
Mais d'abord, les étudiants, ils sont là pour apprendre un métier. Et ce métier, il exerce en fonction, si vous voulez, de règles qui sont le fruit elles-mêmes de recherches. Actuellement, quand on veut traiter, par exemple, un choc septique, pour parler de ma spécialité, c'est-à-dire des troubles cardiaques et vasculaires dus à une infection grave, eh bien, on utilise les données qui ont été faites par des études qui se sont faites sur un grand nombre de patients, qui sont le fruit de collaboration de plusieurs équipes, voire même de collaboration internationale. Et donc, si vous voulez, c'est qu'on essaie de transmettre. Et dans l'enseignement qui est donné dans les hôpitaux, eh bien, c'est un enseignement qui est au lit du malade. Et ça part du malade, de ce qu'il est, qui est une personne singulière, qui a un passé, qui a un présent qu'on essaie de prendre en charge, et un avenir que l'on prépare. Mais on utilise chez ce patient des données qui sont le fruit de travaux scientifiques divers, quelquefois expérimentaux, mais surtout sur des grandes séries de patients qui permettent de dire qu'en utilisant ce traitement, on a la meilleure chance d'avoir le meilleur résultat. Et si vous voulez, la médecine, c'est finalement un va-et-vient entre une personne singulière, vous, qui avez votre histoire, ce que vous êtes, le général qui nous est donné par ce que nous disent les bouquins, les grandes études internationales, et comment on va l'appliquer, ces connaissances, on va les appliquer à la personne singulière que vous êtes. On n'a jamais fini de progresser, on n'a jamais fini d'avancer, et ensuite c'est un travail d'équipe. Et je crois que c'est aussi une leçon que l'on a, de ce que j'ai vu, hein, des 50 années hospitalières que j'ai presque dans les jambes, c'est finalement le travail en équipe. Avant, on disait le service du professeur Untel, ou c'est toujours le service du professeur Untel, ou le service du docteur Untel. Mais c'est une équipe. On ne peut bien s'occuper d'un patient maintenant qu'en équipe. C'est l'enjeu de la formation. Et aussi, c'est l'enjeu de l'exercice médical. Vous regardez les cabinets en ville, souvent c'est des cabinets de groupe. Dans ma génération, beaucoup de médecins s'installaient seuls. Maintenant, on travaille ensemble. Ça permet bien sûr de se relayer, mais ça permet aussi d'échanger. C'est bien quelquefois de prendre des décisions. Les décisions, on les prend tout seul, mais de prendre l'avis d'autres personnes et d'avoir, disons, une décision qui est la plus raisonnée et raisonnable possible. Voilà.
Imaginons que je suis un jeune étudiant en cardiologie, par exemple. Comment vont s'articuler mes interventions avec l'hôpital, avec le CHU? Comment est-ce que ça...
Alors, vous êtes étudiant en cardiologie. Donc, si vous êtes étudiant en cardiologie, vous êtes interne. Vous êtes interne. Autant de ma génération, l'internat, c'était un concours hospitalier. C'était un concours hospitalier, c'était l'hôpital de Montpellier qui créait son propre recrutement d'internes. Avec, dans les suites de la réforme Debré, de la loi de l'université de 68, etc., et puis des revendications des étudiants, l'internat est devenu un examen universitaire. C'est-à-dire, vous terminez vos études de médecine et vous passez un examen classant national, et en fonction de ce classement, vous choisissez votre spécialité. Alors vous allez en cardiologie. Eh bien, vous allez vous retrouver en cardiologie à accueillir les urgences, à faire des électrocardiogrammes, à faire des gestes, encadrés bien sûr par des médecins seniors, des chefs de clinique, des médecins des hôpitaux et des universitaires, des professeurs qui vont vous apprendre votre métier, votre manière de faire, mais aussi votre manière d'être avec les patients. Parce que ce n'est pas tout d'avoir de la technique. La médecine, c'est quand même un travail de relation, hein, de relation humaine.
Alors, les CHU, c'est aussi un réseau.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de ce réseau des CHU?
C'est la réforme Debré qui a créé les CHU. Au début, il y en avait 10 ou 12. Montpellier a été un CHU. Nîmes, par exemple, s'est créé en 75. Alors c'est une situation un peu particulière entre Nîmes et Montpellier parce que c'est une seule faculté de médecine, c'est la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, et il y a deux CHU. Et ensuite il y a des petites, des écoles de médecine, par exemple Amiens, Clermont-Ferrand, Angers, qui sont devenues des facultés de médecine, et les hôpitaux dont elles dépendaient, ces écoles de médecine, sont devenues des CHU. Et donc, il y a à peu près 32, je crois, CHU en France qui sont reliés. Bien sûr, il y a un réseau de directeurs des hôpitaux de CHU. Il y a un réseau de présidences de conférences médicales des CHU, des présidents de conférences médicales d'établissements des CHU. Il y a des groupes de travail entre les directeurs, les médecins. Parmi les directeurs, il y a le groupe de travail de la communication, des travaux, etc., de façon à ce que mettre en commun des expériences et peut-être faire ressortir auprès de nos tutelles, parce que quand même, on est un système de santé qui est très centralisé, certaines évolutions qui pourraient être faites. Mais entre CHU, vous avez sur la région Occitanie, vous avez trois CHU. Vous avez Toulouse, Montpellier et Nîmes. Et Montpellier-Nîmes, c'est un peu particulier compte tenu qu'il y a une seule faculté. Donc les relations, elles sont un petit peu formelles, mais si vous voulez, elles se font, chaque CHU a son indépendance. Et je dirais même, peut-être jaloux d'une certaine indépendance. Hein. Mais je pense que de plus en plus, compte tenu de la technicité des CHU, des techniques qui sont mises à notre disposition, par exemple, la chirurgie cardiaque des enfants, c'est très spécialisé. Sur le sud, vous avez, si mes souvenirs sont bons, vous avez Bordeaux et Marseille. Et quand un enfant doit avoir une intervention, ben il va à Marseille ou à Bordeaux, quoi. Hein. Ça n'empêche pas que dans chaque CHU, on puisse faire des techniques de premier abord. Mais la grosse chirurgie cardiaque infantile, par exemple, se fait dans les centres de référence. Bon. Il y a des techniques par exemple, de radiothérapie, la protonthérapie, etc., qui se font dans des endroits très précis. Mais, disons, chaque CHU est autonome en soi. Et surtout, il y a des collaborations entre nous, entre équipes. Je vois, par exemple, pour ma spécialité, la réanimation, eh bien, il y a un réseau entre collègues de la même discipline, justement, pour réaliser des études communes sur un plus grand nombre de malades, pour qu'elles aient, ces études, elles aient le plus de poids. Donc il y a des collaborations. Ensuite, l'enseignement se fait aussi au niveau régional, et quelquefois même au niveau national, il peut y avoir des séminaires nationaux. Donc il y a une communauté. Et puis on a tous une communauté de destin, les CHU, chaque responsable de discipline, on a une communauté de destin. Notre métier, c'est quand même d'être au service du patient. La médecine, comme disait Claude Bernard, elle part du malade, elle revient au malade. Alors bien sûr, il peut y avoir des détours, hein. Ça passe bien sûr par des laboratoires, par de la recherche fondamentale sur des cellules souches, sur des animaux, enfin bref, il y a des tas de techniques, mais des modèles expérimentaux. Mais la médecine, elle part du malade pour revenir du malade, et pour ça, on est aidé en partenariat par un réseau aussi, un réseau INSERM. Pratiquement tous les services sont du CHU sont liés à des équipes INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui est lui-même aussi en lien aussi avec le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Le Centre National de la Recherche Scientifique, qui est beaucoup plus général, il a été créé à la Libération. L'INSERM a été créé dans les années 60, dans les suites de la loi Debré. Et au sein de l'université de Montpellier, par exemple, il y a une collaboration, toutes ces unités, avec des médecins, des chercheurs de la faculté de médecine, de l'hôpital, travaillent à la faculté de pharmacie, avec la faculté de sciences, avec la faculté des lettres. Actuellement, vous ne pouvez pas faire une étude médicale de grande envergure sur la prise en charge de la gériatrie, par exemple, des personnes âgées, si vous n'êtes pas aidé par les sciences humaines et sociales. Et il faut arrêter d'opposer, ce qu'on l'a fait trop longtemps, les sciences dures, c'est-à-dire les sciences de laboratoire, la chimie, la physique, ce qu'on veut, avec les sciences humaines et sociales, la philosophie, la sociologie, qu'on appelle communément les sciences molles. Mais c'est complètement idiot, ces qualificatifs sont complètement débiles, parce qu'on essaie d'approcher une réalité, au travers de toutes ces techniques, de, à la fois la sociologie, mais aussi la philosophie, les statistiques, la virologie, la biochimie, la biologie cellulaire, la génétique, tout ça, toutes ces structures qui sont groupées autour du CHU et autour de ces unités de recherche, eh bien, elles sont au service du malade.
Lors de la première vague de la Covid-19, en mars-avril 2020, il y a eu les hôpitaux de l'Est qui ont été complètement débordés.
Oui.
Est-ce que c'est ce réseau qui a permis des échanges et de les désengorger ?
Oui, alors ça a été un peu compliqué. On ne va pas refaire le film parce qu'il faudra faire un retour d'expérience de cette affaire-là. Il y a eu... je crois qu'il y a eu une collaboration entre équipes. On se connaît tous. Entre nous tous, là, tous des copains, on travaille ensemble, on était des commissions ensemble, entre Strasbourg, Montpellier, Nîmes, Angers, tout ça, on se connaît tous. Donc il y avait des liens qui se faisaient un peu informels. Mais enfin, transporter un malade de Strasbourg sur Nîmes, ou sur Montpellier, ou sur Toulouse, ou sur Bordeaux, c'est pas parce que vous êtes copain avec le chef de service de Strasbourg que vous arrivez. Il faut toute une organisation. Et ça, il fallait le secours des ARS, etc. Je le cache pas, dans cette affaire-là, la première vague, le système a été dépassé d'emblée. Et notamment dans le Grand Est, ça a été assez extraordinaire. On voit quelqu'un en pleine crise qui dit, ben voilà, l'hôpital de Nancy, il faudra supprimer 600 lits, quoi. Directeur d'ARS. Bon. Nous, on a eu la chance à Montpellier, on a eu une ARS qui a été très réactive, qui d'emblée a fait coopérer le secteur public et le secteur privé, ce qui n'était pas le cas à Paris et dans le Grand Est. Et donc là, ça a permis d'amortir la vague. On n'a pas subi ce qu'ils ont subi, mais on a pu encaisser la première vague grâce à cette collaboration public-privé, et grâce à une ARS qui a été une agence régionale de santé, et son directeur général, qui a été très, très, très liant dans la manière de faire. Ça a montré qu'on a un système de santé qui est hyper administré, très centralisé. Là, alors qu'il fallait 10 signatures pour prendre une décision, là, en 2 signatures, c'était réglé, quoi. Je pense qu'on a des leçons à retirer de cette crise. De donner plus de place au territoire, de donner plus de place au terrain. On a un système de santé qui est top-down, pour parler anglo-saxon. Eh bien, il faut peut-être arriver à qu'on soit un petit peu bottom-up, c'est-à-dire que partir un peu de la base. Il faut les deux. Je disais tout à l'heure qu'on a pu avoir la réforme de 58 grâce à un pouvoir central fort qui a imposé cela, mais aussi, je pense que dans la gestion de la santé qui est autre chose que l'organisation universitaire, etc., il faut donner la place au territoire.
Est-ce qu'au sein de ce réseau des CHU, oui, Montpellier a un rôle particulier ou une spécialité particulière ?
Oui, d'abord, on a eu des personnalités qui ont animé ce réseau. J'ai connu Guy Vergne, il y a une vingtaine d'années, qui a été président de la conférence des directeurs généraux. Philippe Domi, le directeur général... avec qui j'ai travaillé quand j'étais président de la commission médicale, a été président de la conférence des directeurs généraux. L'actuel directeur général du CHU, Thomas Ludec, est vice-président et de la conférence et président de la commission de stratégie hospitalière. Donc, on a des acteurs fondamentaux. Et parmi les présidents de CME, les doyens, parce qu'aussi on travaille en symbiose, vraiment... Il y a un triumvirat, au sein du CHU, c'est le directeur général, le doyen, le président de la CME. Enfin, c'est un travail en commun, au service à la fois des malades, parce que c'est notre but, c'est notre métier, mais aussi au service de la formation des personnes et des personnels qui vont prendre en soin ces patients.
En 1992, Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, crée le programme hospitalier de recherche clinique en lui associant une dotation spécifique. La recherche est devenue depuis un enjeu essentiel pour les CHU. En quoi, pour vous, cela a été un changement profond ?
Eh bien, ça a été intéressant là. Et en même temps, on a changé, c'est à peu près la même époque, où on a commencé à changer le mode de tarification des hôpitaux. Avant, vous aviez un budget global. Et les centres hospitaliers universitaires, ils avaient 13% du budget global qui étaient affectés à la recherche. Et avec ce programme hospitalier de recherche, ça a dynamisé et ça a permis et ça a renforcé les coopérations entre équipes. Ça a permis de, par exemple, j'avais une idée de faire un programme de recherche sur la prévention de l'infection nosocomiale dans les hôpitaux, qui fait état des données de 10 hôpitaux universitaires. C'était hyper compliqué. Là, on se mettait à 10, on faisait un projet. Ce projet était financé avec, bien sûr, il manque toujours un sou pour faire un franc, comme on disait, mais on avait quand même un minimum pour fonctionner, pour permettre de mener ce projet à bien. Et ça a permis donc de mettre en place des projets de recherche pluridisciplinaires, pluricentriques, et qui ont permis de donner lieu à des publications de très très bon niveau sur le plan international. Ensuite, le budget des hôpitaux a changé. Il y a eu la tarification à l'activité, c'est-à-dire que vous recevez une pneumonie en réanimation, mais c'est tarifé quand, et puis voilà, quoi que vous fassiez, etc. Et puis, aux hôpitaux sont affectés ce qu'on appelle des missions d'intérêt général, c'est-à-dire le SAMU, tout ça, vous avez des budgets alloués. Et en fonction de votre activité de recherche, et en fonction selon l'importance de l'étude, la publication dans une revue de très haut niveau, etc., pluricentrique, qui met en place l'université, le CHU, etc., vous avez des points qui sont affectés. En fonction de ces points, vous avez un budget. Et donc l'hôpital de Montpellier, le CHU de Montpellier, est en très bonne place sur le plan de la recherche. Par exemple, on est dans la sixième, septième place des CHU en France. Sur le plan de la recherche, par exemple, CHU, et avec les budgets, sur le plan de la recherche contre le cancer, le centre anticancéreux, il y a un centre anticancéreux qui est indépendant du CHU. Mais enfin, il ne faut pas oublier que les professeurs du centre anticancéreux sont des professeurs affectés au centre hospitalier universitaire et qui sont détachés au centre anticancéreux. Actuellement, nous avons un CIRIC, c'est-à-dire un site intégré en recherche et innovation en matière de cancer, sur Montpellier, alors que Toulouse, qui a le cancéropole, tout ça, ne l'a pas. Et c'est grâce au potentiel de recherche du CHU, joint à celui de recherche du centre anticancéreux, qu'on a pu avoir ce CIRIC. Donc, ces bourses Kouchner ont été vraiment un booster dans la dynamisation de la recherche clinique. Moi, je sais que j'ai participé à quelques programmes hospitaliers de recherche clinique, et vraiment, ça a été d'abord une expérience humaine intéressante, parce qu'on rencontre des tas de gens, on sort un peu de son microcosme, et ensuite, ça a permis de faire des publications pour le service, pour l'hôpital, pour l'université, et parfait.
Pour conclure cet entretien, je propose qu'on s'ouvre vers l'avenir.
Oui.
Quels sont, selon vous, les principaux enjeux du CHU, et peut-être plus largement du monde hospitalier, pour les années à venir ?
Mais ça, c'est personnel, je n'engage que moi. C'est Olivier Jonquet qui parle. Moi, je pense qu'il faudra trouver un système pour que les médecins du CHU sortent du CHU. Sortent de... Quand les gens en parlent, souvent, ils en disent que c'est une citadelle. Hein, c'est difficile d'y entrer. C'est difficile de s'y repérer. Et je crois qu'il faut que les médecins du CHU sortent. Moi, j'ai eu la chance, dans le cadre associatif, d'avoir des malades lourds à domicile, ce qui m'a donné l'occasion de voir comment vivaient les malades que j'avais eu en réanimation à l'hôpital. Je les voyais, souvent dépendants d'appareils respiratoires ou d'autres machines, à domicile. Ça permet de repenser le soin, ça permet de réfléchir à ce qu'on fait en phase aiguë. Je pense que vraiment dans la formation et dans l'organisation générale des soins, il faut revoir un petit peu nos manières de faire. Je pense aussi que l'hospitalisation publique doit s'organiser de façon beaucoup plus liée. On a créé il y a quelque temps les groupements hospitaliers de territoire qui regroupent en général les hospitalisations publiques des départements. Mais enfin, sur l'Hérault, on en a deux. Il y a l'Ouest qui est sur Béziers et l'Est qui est sur Montpellier, avec le Sud Aveyron aussi. Et donc ça crée des coopérations entre ces hôpitaux et ça permet de couvrir le territoire. Parce que moi, ce qui m'inquiète dans l'avenir de la médecine, c'est qu'on dit maintenant qu'il faut augmenter le nombre d'étudiants. Si vous voulez augmenter le nombre d'étudiants, c'est très bien, mais ils iront tous s'installer à Montpellier ou à Toulouse. Le problème actuellement de la médecine, et je le vois au niveau de l'ARS, la commission d'organisation des soins dont je m'occupe, c'est qu'on a, même dans notre région, on a des déserts médicaux qui s'installent. Comment faire pour que ces territoires de notre région puissent être couverts au plan médical et pas couverts par des médecins de seconde zone, mais qui puissent bénéficier au maximum de tout ce qu'on peut bénéficier avec la technique médicale actuelle. Ça, c'est un véritable enjeu de l'avenir.
Merci à Olivier Jonquier, professeur émérite de l'Université de Montpellier et ancien chef de service de réanimation du CHU, d'avoir répondu à nos questions. Le CHU depuis 1992, La naissance d'un réseau, un magazine réalisé en collaboration avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole.
C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.